SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est arrivé un 25 mai, notre rubrique rétro du jour. Et aujourd'hui, notre rétrospective, Valentine Saboureau revient sur un meurtre violent qui a embrasé l'Amérique et bien au-delà. Il a été perpétré par un policier blanc sur une victime noire qui s'appelait George Floyd. Récit avec les archives de l'époque et de l'Institut national de l'audiovisuel.
Ce que nous avons vu, c'est un homme noir qui a été lynché, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas utilisé de corde, il s'est servi de son genou.
C'est l'histoire d'une tragédie américaine qui n'est hélas pas inédite. Le 25 mai 2020, l'arrestation musclée du quadragénaire noir George Floyd à Minneapolis dans le Minnesota par 4 policiers entraîne son décès et allume le feu d'une indignation mondiale portée par le mouvement Black Lives Matter, BLM. La justice est finalement rendue un an plus tard sans que la question du racisme et des violences policières soit pour autant réglée. Que s'est-il passé ce jour-là à Minneapolis ? Vers 20h, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est accusé par un épicier d'avoir payé ses cigarettes avec un faux billet de $20. L'homme d'1m98 a fait de la prison dans sa jeunesse pour braquage et trafic de drogue, mais il s'est rangé. Il travaille désormais dans la sécurité et s'investit dans sa paroisse. Il a 5 enfants. Repéré par la police, il est arrêté par un agent, rejoint par un deuxième, puis 2 autres encore qui le sortent de sa voiture. Calme et non armé, le géant, ancien sportif, refuse toutefois d'entrer dans le véhicule de la police, invoquant des raisons de santé. Il est alors plaqué au sol et contraint de rester dans cette position par le plus gradé d'entre eux, Derek Chauvin, américain blanc de 44 ans, qui le maintient à terre à la force du genou. Malgré les plaintes et les râles de George Floyd, la pression n'est relâchée que 9 minutes et 29 secondes plus tard, alors que le suspect ne respire déjà plus et que son pouls n'est plus perceptible. Daniela Fraser, présente sur les lieux, a témoigné plus tard au procès.
I heard George Floyd saying, I can't breathe, please get off of me. I can't breathe. He cried for his mom. He was in pain. It seemed like he knew. It seemed like he knew it was over for him.
L'arrivée des ambulanciers confirme ensuite le pire et malgré leur tentative de réanimation, George Floyd est déclaré mort à 21h25 aux urgences du centre médical de Hennepin. Le drame s'est bouclé en 1h30. Ses remous vont secouer l'Amérique durant des mois et même des années. Des témoins, dispersés par l'un des policiers, ont en effet filmé l'agonie de l'Afro-Américain. Par ailleurs, des caméras de surveillance sont aussi enregistrées. Ces images circulent donc rapidement sur les réseaux sociaux, de quoi alimenter la colère des habitants de Minneapolis, puis d'autres villes américaines, New York, Boston, Détroit, Philadelphie, Chicago, Denver. Fin 2020, les chiffres estimaient que 15 à 26 millions d'Américains avaient manifesté. Sportifs et artistes se joignent au mouvement qui s'internationalise, le genou à terre devenant le symbole de leur soutien. Mais les dérapages se multiplient avec leur lot de violence, de saccages, de pillages et d'incendies.
Slogan, colère, émeute, mais aussi pillage, couvre-feu. La mort de George Floyd catalyse aujourd'hui encore tous les éléments d'une colère qui dépasse de loin les États-Unis.
Entre-temps, une autopsie et une contre-autopsie ont lieu, toutes deux concluant à la mort de George Floyd en raison d'un arrêt cardio-pulmonaire en lien avec son immobilisation forcée et la compression de son cou, la consommation de drogue étant écartée. Le président Donald Trump prend la parole 4 jours après le décès.
C'est une terrible chose. Nous avons tous vu ce que nous avons vu. Et c'est très difficile de même conceivre de quelque chose autre que ce que nous avons vu. Ça ne devrait jamais arriver, ça ne devrait jamais être permis d'arriver à une chose comme ça. Mais nous sommes déterminés que la justice soit servie.
Poursuivi par l'État du Minnesota, Derek Chauvin est reconnu coupable de meurtre le 25 juin 2021. Est condamné à 22 ans et demi de prison. Un an plus tard, c'est la justice fédérale qui le condamne à 21 ans de prison pour violation des droits civiques. Ses collègues écopent, eux, de peines plus clémentes. La justice américaine a tranché, mais elle n'a toutefois pas encore évolué. Le George Floyd Justice in Policing Act 2021, loi appelée à modifier les pratiques policières, n'a en effet toujours pas été votée à ce jour.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'excès.
Vous l'aurez reconnu, Gaël Faye avec Paris Métèque, une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup, mais beaucoup. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée d'Australie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus australienne des pâtes à tartiner, le Vegemite. Le Vegemite qui fête cette année ses 100 ans. Alors, on a comme d'habitude avec nous l'historien Romain Fati pour nous accompagner. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, moi, le Vegemite, vraiment, c'est pas mon truc, mais je dois dire que quand j'en ai goûté, le goût, c'est vrai, était tellement étrange que ça m'a un petit peu interpellé. Et quand j'ai regardé les listes des ingrédients, j'étais encore plus confus parce que je me rappelle n'en avoir vu qu'un seul, yeast extract, extrait de levure. Et en fait, cet extrait de levure, bien, c'est un résidu issu de la fabrication de bière.
Oui, tout à fait. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que les extraits de levure de bière, il y a du malt, il y a aussi un peu d'oignon, de céleri. Mais la base, effectivement, de la Vegemite, ce sont ce qui reste quand on produit de la bière, hein, encore aujourd'hui. Donc, ça a été développé comme ça au tout début du 1921-22-23. Et depuis, effectivement, c'est un produit australien. Mais il y a une histoire derrière qui est liée à la Grande Guerre qu'il faut rappeler, c'est que après la Première Guerre mondiale, bon, déjà, on met pas mal de temps à démobiliser les soldats, à ce qu'ils puissent rentrer, même les soldats australiens. Et puis, l'Empire britannique manque de bateaux. Et donc, le transport maritime est difficile, ce qui veut dire que le public australien est pas privé totalement, mais il est difficile d'obtenir de la marmite, hein, qui est une pâte britannique. Et donc, un Australien, un businessman assez intelligent, demande à un chimiste de lui développer un produit qui serait un peu équivalent, mais australien. Il faut se rappeler qu'en 1922, bon, l'Australie est isolée, et puis par ailleurs, on est dans une situation de sortie de guerre, le marché économique n'est pas totalement rétabli, et donc on cherche à utiliser des choses qui seraient peut-être peu chères et disponibles, et puis que l'on pourrait trouver localement. Et comme les Australiens sont des producteurs de bière déjà à l'époque de façon assez importante, il était donc facile de trouver des restes de levure après les fabrications de bière et d'y ajouter évidemment quelques ingrédients. Hein, donc c'est une histoire qui est vraiment liée à la sortie de guerre de la Première Guerre mondiale et qui nous dit beaucoup sur ben, l'isolation de l'Australie après le premier conflit mondial.
D'accord, donc oui, effectivement, le lien en tout cas avec la Grande-Bretagne, s'il est rompu, on voit qu'à ce moment, dans son histoire, l'Australie est vraiment d'un coup coupée du monde. Et donc une précision avant d'aller plus loin, c'est que donc le Vegemite, c'est évidemment australien, mais c'est pas le pionnier, en tout cas dans ce genre de pâte à tartiner, puisque, vous le disiez, ça a été inventé pour compenser l'absence de Marmite qui est anglais et qui est un petit peu la même chose en gros. Hein.
Oui, exactement. On sait également que bon, les Anglais, c'est bien connu en Europe, et les Irlandais produisent de nombreuses et de très bonnes bières. Donc, c'est effectivement culturellement, c'est un produit de l'Empire britannique. Hein. On en retrouve aussi, je crois, sous une différente marque en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quelque chose qui est un acquired taste, on dit en anglais, hein. Un goût acquis ou cultivé. C'est un peu, si vous voulez, comme bon, je vais prendre un exemple tout bête, mais certains Français aiment beaucoup les escargots, j'en fais partie. Vous proposez ça à des Australiens, voilà, ils ne vont pas tous aimer. Eh bien, la Vegemite, je partage votre avis. Après des années en Australie, c'est toujours pas un produit que je consomme parce que voilà, ce n'est pas un goût que j'ai acquis depuis ma jeunesse.
Alors donc, chez les anciens immigrés français que nous sommes, il n'y a pas de Vegemite dans la cuisine, mais par contre, il y en aurait dans plus de 90% des cuisines des Australiens. Et pourtant, quand le Vegemite a été lancé en 1923, sur le coup, ça a plutôt été un échec commercial.
Oui, alors je vais commencer par la fin, et vous faites bien de le rappeler, c'est qu'à peu près 90% des cuisines australiennes ont un pot de Vegemite. Alors il y a plusieurs façons d'interpréter ça.
Le Vegemite aujourd'hui, c'est donc un incontournable, mais ce que je vous demandais tout à l'heure, c'est que à son lancement en 1923, pour le coup, ça ne marche pas si fort.
Vous avez certains Australiens qui vont effectivement en manger, si ce n'est tous les matins, plusieurs fois par semaine, hein, et ça fait vraiment partie de leur routine du matin avec peut-être un thé assez fort à l'anglaise. Et puis vous en avez d'autres qui effectivement ont ce pot de Vegemite et puis c'est utilisé quand l'oncle Harold vient rendre visite et qu'il a sa tartine de beurre parce que ça fait 50 ans qu'il fait ça, pardon, de Vegemite parce que voilà, c'est son habitude. Donc le fait que la grande majorité, à peu près 90% des cuisines australiennes, contiennent un pot de Vegemite n'est pas nécessairement une indication de la consommation quotidienne. Mais ce qui est une indication, c'est que vous avez à peu près entre 22 et 23 millions de pots de Vegemite vendus en Australie par an. Donc c'est énorme, c'est un peu moins de la population australienne, hein, qui est à peu près 26-27 millions. Mais on voit mal un petit bébé d'un an aller chercher un pot de Vegemite. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un produit quand même phare, dont la production est très importante, 22 à 23 millions de pots de Vegemite. Et cela traduit quand même un certain degré d'utilisation.
Aujourd'hui, c'est donc un produit ultra populaire présent dans quasiment toutes les cuisines. En revanche, lors de son lancement en 1923, les débuts sont un petit peu compliqués.
Effectivement, au début des années 20, ça n'a pas tout à fait marché. C'était un marché un peu niche, un peu restreint, parce que les gens ne connaissaient pas et que de toute façon, le produit phare, c'était Marmite. Voilà, si vous lancez une maison de champagne, je ne vais pas comparer la Marmite au champagne, mais ça peut être parfois un peu difficile de se faire un nom parmi les grands noms. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début des années 20 et des années 30, l'entreprise qui a lancé le Vegemite a fait des campagnes à la fois publicitaires et de marketing qui sont vraiment tout à fait contemporaines. Donc, en fait, le chimiste qui a créé la Vegemite, hein, il s'appelle Cyril Callister, et il était employé par un monsieur qui s'appelait Fred Walker, de la Walker Cheese Company, parce que le propriétaire était intéressé par faire du fromage d'usine et développer des pâtes à tartiner. Donc, il a embauché Monsieur Callister. Et au début, comme on l'a rappelé, ça tourne pas très bien. Donc, ils organisent un concours pour nommer la nouvelle pâte à tartiner, faisant des pubs au niveau national en disant, voilà, vous pourrez gagner 50 pounds, 50 livres. À l'époque, c'est beaucoup d'argent si vous nous trouvez le bon nom. Et puis, dans le début des années 30, ils utilisent des coupons, en fait, qui sont distribués, ou si vous achetez des produits de la Walker Cheese Company, vous pourrez obtenir un pot de Vegemite gratuitement. Donc, en fait, en distribuant le produit devient de plus en plus populaire et devient un immanquable de la cuisine australienne, mais ce n'était pas gagné. Donc, c'est en distribuant le produit gratuitement, en utilisant les profits d'autres produits, que l'entreprise à créer ce marché, ce qui est une histoire assez assez sensationnelle. Ce sont des procédés publicitaires qui sont usités dans les années 20, dans les années 30, que l'on pourrait trouver modernes, mais c'est le grand développement à l'époque du monde publicitaire, hein. Donc c'est pas tellement surprenant que ça. Effectivement, au début, c'est pas un produit qui cartonne, et puis petit à petit, à force de travail par l'entreprise, ça fonctionne. Au point que Vegemite est racheté assez tôt par Kraft, une entreprise américaine. Donc pendant la grande partie de ces 100 ans, en fait, la Vegemite est possédée par des actionnaires américains. C'est qu'en 2017 qu'elle revient en Australie.
Alors on a donc derrière cette marque l'inventeur d'un nouveau produit et un génie du marketing, si j'ai bien compris. Et donc après des débuts un petit peu difficiles, une campagne de com très efficace, le produit va finir par être carrément promu par la British Medical Association parce que c'est très riche en vitamine B. Et puis ce qui va finir de conquérir le public australien, c'est que le Vegemite va être intégré dans les rations des militaires qui participent à la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, en tant qu'historien militaire, ce qui est important, c'est qu'un soldat se sente bien. Hein, si, par exemple, l'armée américaine envoyait des glaçons par avion en Irak parce que avoir un coca frais, c'est un signe de situation contrôlée et que psychologiquement, c'est important. Et aujourd'hui, hein, dans le déploiement des troupes, ce qu'ils mangent, c'est extrêmement important pour maintenir le moral. Et donc, ce que je veux essayer de signifier, c'est que l'ajout de la Vegemite dès la Seconde Guerre mondiale en tant que faisant partie des rations, ça signifie quelque chose. Ça signifie que pour l'entrée en guerre, vous avez déjà une population australienne qui connaît la Vegemite, qui aime ça et qui en redemande. Et donc, il faut lui en donner. Et des pots de différentes tailles sont créés pour l'armée. Vous avez un gros pot qui est créé pour, disons, un petit régiment. Et puis, vous avez des pots un peu plus petits pour les soldats quand ils sont europos. Et puis même des toutes petites dosettes, comme les dosettes qu'on a aujourd'hui, par exemple, dans les avions, ou au McDonald's australien, hein, par exemple, aussi. Pendant un moment, ils faisaient ça. Des toutes petites dosettes au cas où voilà, vous soyez en situation de combat et vous avez besoin de votre Vegemite. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est extrêmement important pour... comment dirais-je, le moral des troupes. Ce qui fait que pour les Australiens qui ne connaissaient pas, eh bien, ils deviennent, disons, pas accros, mais enfin, ils commencent à connaître ce produit et ça devient vraiment le produit, un des produits phares et les plus connus d'Australie dans les années 50, 60, 70 et encore aujourd'hui. Je veux dire, tous les Australiens vous parlent de Vegemite quand vous découvrez l'Australie. Ça fait partie des choses avec les kangourous, les koalas qu'il faut connaître sur l'Australie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Love him. Please love him. Il est fou de vous. De ses mains d'amour.
La voix de Catherine Ringer sur cette chanson mythique de Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me. Vous écoutez le programme en français? Vous êtes sur Radio SBS. On se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Michaela Wrong, bienvenue sur SBS French.
Merci.
Voilà, vous êtes en Australie, en marge des commémorations des 30 ans du génocide au Rwanda. Commémorations qui se sont déroulées à travers plusieurs villes en Australie. Et vous avez participé à ces commémorations. Nous allons y revenir, mais nous allons surtout parler de votre dernier livre, Assassins sans frontières, un livre sur le Rwanda et qui retrace les événements au Rwanda avant, pendant et après le génocide.
Oui.
Comment a été votre voyage en Australie?
C'est un peu fatigant parce que c'est assez loin, comme vous savez. Mais c'est bien d'être ici, c'est ma première visite. J'ai jamais visité
l'Australie.
Une première expérience.
Vous êtes autrice de plusieurs ouvrages sur l'Afrique. Vous avez écrit sur la RDC, l'ancien Zaïre, le Kenya, le Rwanda, l'Érythrée, en plus de vos travaux journalistiques et de vos séjours sur plus de 30 ans, je crois, dans la région des Grands Lacs et en Afrique.
Oui, c'est ça. J'ai commencé ma carrière comme journaliste pour l'agence Reuters. J'ai bossé en France et aussi en Italie. Et après, à un certain moment, j'ai commencé à travailler en Afrique. J'étais placée en Côte d'Ivoire. Et après, j'étais au Zaïre, à Kinshasa, et j'ai changé un peu d'employeur. Alors, je suis devenue la correspondante sur l'Afrique pour le Financial Times. Et à un certain moment, je voulais approfondir mes recherches et j'ai commencé à écrire et faire des enquêtes sur des sujets africains. Et maintenant, c'est 5 livres que j'ai publiés, comme vous avez dit.
5 ouvrages et justement votre dernier Assassin sans frontières, un ouvrage sur le Rwanda, un ouvrage qui dresse plutôt un bilan accablant pour le pouvoir du président Paul Kagame, un bilan qui va plutôt dans le sens contraire de ce qui se dit majoritairement dans la presse, que ce soit la presse écrite, la télévision, parce que Kagame, c'est le héros africain.
Je ne suis pas totalement d'accord parce que il y a eu beaucoup de critiques à l'égard du FPR. Ouais. Il y a eu beaucoup de recherches et par exemple, moi, j'ai lu plein de livres par René Le Marchand qui met dans un contexte la carrière du FPR et aussi Gérard Prunier et surtout le professeur Philippe Renchens en Belgique. Alors déjà, on a eu des recherches, des enquêtes profondes et plein de nuances, je pense. Et avant que mon livre ait été publié, il y avait aussi le livre de Judy Reaver, un journaliste canadien, et elle est très, très critique à l'égard du FPR. Alors, je pense que je fais partie de toute une série
De publications et d'auteurs qui ont vu une autre image. Parce que si vous parlez à n'importe quel Africain dans la rue ou même des journalistes ici en Australie qui ne suivent pas spécialement l'Afrique, Kagame, c'est le héros, c'est l'homme qui est vraiment qui a libéré le Rwanda, qui a arrêté le génocide, qui a transformé le pays en Singapour de l'Afrique ou même en Suisse de l'Afrique.
Oui, mais ce sont des clichés. Ce sont surtout des clichés, un portrait qui a encouragé et qui a été peint par le gouvernement à Kigali. Et je pense on a un peu tendance, tout le monde a un peu tendance d'être paresseux intellectuellement et d'accepter ces clichés. Et moi, comme journaliste, je voulais regarder un peu plus près et aller un peu plus profond.
Cet ouvrage commence avec l'assassinat d'un ami de Kagame, un assassinat spectaculaire en Afrique du Sud. Parlez-nous de cet assassinat et du début de votre livre « Assassins sans frontières ».
Oui, c'est l'assassinat de Patrick Karegeya, qui était l'ancien chef à l'extérieur, chef d'intelligence, des renseignements de Paul Kagame. Et les deux hommes se connaissaient depuis des décennies. Ils sont même allés aux mêmes écoles en Ouganda. Et c'était un des proches qui avait vraiment l'oreille de Paul Kagame. Et c'est un monsieur qui connaissait beaucoup de journalistes. Moi, je l'ai rencontré, ou je sais pas, peut-être deux fois quand il était toujours en place à Kigali. Et après, bon, il a eu des problèmes avec Kagame. Il s'est enfui. On lui a menacé et il s'est enfui en Sud-Afrique où il a fondé une partie d'opposition. Et à un certain moment, oui, c'était la nouvelle année 2014. Il avait un ami, Apollo, qui passait à Johannesburg. Il est allé voir son ami et il s'est fait piéger dans une chambre d'hôtel et on l'a étranglé. Et moi, je trouvais que c'était tellement choquant et c'était tellement bon, rocambolesque, si on peut dire. Tout le monde était tellement choqué par cela. Et je trouvais que c'était une histoire importante que je voulais raconter parce que, oui, j'avais rencontré ce monsieur, mais c'était aussi le fait que c'était vraiment un des... il faisait partie de cette élite Tutsi, très proche de Kagame. C'était pas une histoire Hutu-Tutsi, comme on dit toujours, « Oh oui, c'est une histoire entre les Tutsi et les Hutu ». C'était un des plus proches. Il avait fait partie, pas seulement du FPR, mais aussi du NRM en Ouganda. Et je pensais que montrer quelque chose de très important sur cette administration et ce régime et sur le mandat de Paul Kagame.
Vous avez cité le NRM. Le NRM, c'est l'acronyme de National Resistance Movement, qui était le nom de la rébellion ougandaise sous Museveni, qui par après a changé de nom pour devenir la UPDF, Ugandan People's Defense Forces, tout comme l'armée du FPR pendant la rébellion s'appelait APR, Armée Patriotique Rwandaise, qui est devenue plus tard le RDF, quand le FPR a pris le pouvoir, donc RDF pour Rwandan Defense Forces. Revenons à l'assassinat de Paul Karegeya. C'est quelqu'un que vous avez connu pendant ces années de gloire à Kigali, parce que c'était le chef de renseignement du FPR.
Oui, c'est un homme énormément important. On disait que c'était le monsieur qui connaissait tous les secrets, qui connaissait tout sur Kagame. Alors le fait qu'il s'est fait assassiner par son propre ami, les deux familles étaient très proches. Hein? Comme j'ai dit, ils se connaissaient comme enfants. Ils étaient des jeunes rebelles ensemble en Ouganda. Les femmes se connaissaient, les enfants jouaient ensemble. Alors le fait qu'on a pu l'assassiner de cette manière, ça montre quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est pas le seul homme qui a été ciblé de cette façon, qu'il y a eu plein d'assassinats. Et c'est un aspect du régime et de Paul Kagame qu'on a tendance parmi les Occidentaux, surtout, on veut pas trop penser à cela. Tous les faits sont publics, mais on pense jamais à ça. Et on présente toujours Kagame comme le monsieur qui a arrêté les tueries et que c'est un président très moderne. Et on oublie que effectivement, c'est un monsieur qui est en train d'éliminer les gens qui s'opposent à lui, même quand ce sont des anciens amis, des proches.
Il n'y a pas que lui, il y avait aussi l'ancien ministre Seth Sendashonga qui lui a été assassiné au Kenya.
Ouais.
Et des poursuites contre les opposants sont en fait, on en parle souvent régulièrement, même en Australie, on parle souvent dans la presse de la présence d'agents du FPR. Et je crois qu'à une certaine époque, même en Grande-Bretagne, il y a eu une annonce faite par la Metropolitan Police aux opposants rwandais de faire attention parce qu'il y avait des agents qui seraient là pour les...
Oui.
Chasser et...
Il y a eu quatre membres de l'opposition rwandais qui, à un certain moment, en 2010, je pense, ils ont été avertis par les policiers anglais qu'on les menaçait, qu'ils étaient en danger. Et c'était leur propre gouvernement qui était le danger. Et il fallait prendre des mesures de protection, d'autoprotection. Et effectivement, c'est toujours un aspect dont on parle jamais en Occident. Et il faut dire que quand même, on connaît bien les faits. Human Rights Watch, l'organisation des droits humains, et ils ont publié un rapport après l'autre. Freedom House, c'est un groupe aux États-Unis, ils ont fait la même chose. Et malgré tout cela, comme vous voyez, chez moi, mon gouvernement, il parle jamais de cet aspect du régime à Kigali. Jamais.
Il y a une certaine contradiction, comme en témoigne votre livre. D'un côté, un pouvoir qui poursuit ses opposants sans relâche jusqu'à les menacer à l'étranger, même dans les pays occidentaux. Donc on parle des menaces qui ont été proférées même en Grande-Bretagne. Mais comment expliquer cet aspect plutôt musclé du pouvoir à Kigali et des très bonnes relations dont il jouit avec la plupart des pays occidentaux et surtout avec la Grande-Bretagne?
Bon, il faut dire qu'on a des intérêts et on voit ça avec le gouvernement britannique, on voit ça aussi avec le gouvernement français et aussi avant, beaucoup moins maintenant, avec le gouvernement aux États-Unis. Ils ont des intérêts et des raisons pour soutenir et aider le gouvernement, le régime de Kagame. Mais aussi, je pense qu'il y a toujours eu une autre carte que Kagame sait bien jouer, il le joue tout le temps. Dès qu'on commence à critiquer ce monsieur, dès qu'on commence à lui dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites avec la presse, avec les élections, avec les partis d'opposition, il joue la carte de la culpabilité pour le génocide. Et il dit, mais vous avez la communauté internationale, vous nous avez abandonnés. Qu'on en était en train de se faire massacrer, mon peuple se faisait massacrer par les Inter-Khamwe et l'armée de Juvenal Habyarimana, et vous n'avez rien fait, et maintenant comment osez-vous me critiquer? Et c'est une carte qui joue toujours.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et sa chanson Le Temps des Fleurs. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Wilfried Nsondé, bonjour.
Bonjour Marianne.
Racontez-nous pourquoi vous êtes venu à Melbourne.
Je suis venu présenter Hélosphère Afi des Abysses, qui est un roman qui est apparu en 2022, où je, suite à une mission océanographique sur la goélette Tara, donc j'ai découvert les mondes sous-marins, enfin une partie infime, mais voilà, le plancton surtout, et j'en ai fait un roman. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la littérature que dans un roman, les personnages principaux sont deux planctons et un bout de plastique, et apparemment ça plaît, puisque voilà, j'étais invité en Algérie, mettant j'ai eu le loisir de le présenter en Australie. Je pense que ça intéressait les gens. Donc oui, ça me plaît, ouais, d'essayer de changer de perspective pour réfléchir sur notre relation à ce qui vit.
Oui, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Wilfried, vous êtes écrivain français. Excusez-moi, j'ai même pas présenté votre titre. Ce dernier livre, il fait partie de plein de livres que vous avez écrits. Vous en avez écrit plus d'une dizaine au total et vous avez reçu près de 20 prix littéraires. Selon vous, quelle est la clé de votre succès?
Ouh, alors c'est une question difficile et piège, parce qu'on sombre vite dans l'égocentrisme. Consciemment, j'aime bien, je suis très curieux, donc j'aime que mes romans ne se ressemblent pas. Donc je change de point de vue, je change de thématique. Ça a l'air d'intéresser, ça tombe bien, parce que moi ça me plaît, c'est même nécessaire. Et je me rends compte que j'ai une sociologie déjà quand même assez particulière, ce dont je n'étais pas conscient, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, donc dans un univers, un continent nouveau. Puis voilà, après mes études à Paris, je suis allé en Allemagne, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Et je pense que voilà, ma curiosité est venue de là. Donc il est très possible qu'il y ait quelque chose, ne serait-ce que dans mon parcours, qui intéresse. Et tous ces mélanges continentaux, culturels, aussi le fait d'avoir grandi en banlieue, hein, parce que la banlieue, c'est pas que le lieu de toutes les délinquances et de brûler les voitures. Enfin, moi, je l'ai connu, c'était un lieu de rencontre. Mes camarades, dès le bac à sable, avaient des parents qui venaient du monde entier. Il y avait donc, il y en avait de confession juive, d'autres musulmans, des animistes, des athées. Pour moi, la diversité est quelque chose de tout à fait banal. Voilà. Et donc, on retrouve ça dans mes livres, diversité, voyage. Et peut-être, oui, voilà, la clé de mon succès serait quelque chose de fondamentalement inconscient, mais de particulier de par mon parcours.
Oui, vous avez une diversité dans vos livres, vous avez une diversité dans votre vie, vous l'avez dit, vous avez vécu dans l'Hexagone, en ce moment vous vivez à Lyon, vous êtes né au Congo, vous avez vécu à Berlin, à Mayotte, donc la France aussi, mais pas l'Hexagone. Vous écrivez des romans, vous avez aussi écrit un livre pour enfants, vous avez écrit un livre scolaire. Toute cette diversité, elle est prévue d'avance ou en fait ce sont des opportunités de vie? Par exemple, ce livre sur le plancton et le plastique, vous aviez prévu de l'écrire? Oui, c'est imposé à vous.
En termes de diversité d'écriture, j'ai même écrit un livret théâtral dans un opéra baroque de Charpentier. Compte tenu de cette diversité-là, des gens me proposent des projets eux-mêmes variés et divers. Quand je décide de participer à une mission océanographique de la Goélette Tara, sincèrement, je ne sais pas ce que je vais en faire.
D'accord.
J'espère que ça m'inspirera un livre, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, j'aime bien me mettre dans cette situation. Bon, bah voilà, j'y vais, mais je ne sais pas encore. Ah bon, j'avais quand même dit à la Fondation Tara que j'aimerais en faire un livre, mais je ne sais pas si ça allait être un récit de voyage, un recueil de poésie. Et donc, voilà, j'aime bien me mettre un peu nu, être poreux à ce qui se passe, et on verra ce qui se passe ensuite. Voilà. Et en l'occurrence, comme je l'ai dit aux Australiens aujourd'hui, c'est en découvrant le plancton. Et pour la petite histoire, c'est la deuxième nuit, donc je suis de quart. Bon, parce qu'un écrivain en mission océanographique, ça sert à rien. Donc ça sert au moins à ne pas dormir la nuit pour que les autres dorment. Et le marin avec qui j'étais de quart, à un moment donné, me dit, tiens, ben viens. Et tout l'arrière du bateau était illuminé. On aurait dit qu'on avait mis vraiment de la poussière d'étoiles sur la mer. Il me dit, voilà, le plancton est là. Et c'est un spectacle tellement fascinant, troublant, puisque j'avais toujours pensé que le plancton était invisible. Eh ben non, quand il veut, il s'illumine. Et c'est là que je me dis, mais c'est incroyable. Et voilà, et donc la fascination a commencé à naître là. Et c'est pour ça que j'aime bien être en immersion. Là, j'étais en complète immersion, on était perdu au milieu du Pacifique. Et voilà, et un lien s'est créé. Alors, ceux qui nous entendent vont dire, mais bon, le plancton, il suffit de remuer un peu l'océan et il brille. Oui et non. Parce que moi, j'ai eu pendant 5 semaines, quasiment chaque jour, chaque nuit, de la bioluminescence intense. Et une fois que j'ai quitté le bateau, Tara a continué 1 an et demi. Sa mission, et quand j'ai revu les marins à Lorient, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, depuis que tu es parti, on n'a quasiment plus eu une bioluminescence aussi intense. Voilà. Comme si voilà, le plancton au large du Chili était venu me murmurer à l'oreille, il faut que tu écrives sur nous.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Oui, parce qu'on peut aussi voir du plancton et ne pas publier un ouvrage derrière. Donc il y a quand même ce talent, votre profession qui sont rentrés en jeu pour rédiger ce livre. Est-ce que vous avez déjà des projets pour la suite, des idées, une inspiration?
Oui, mais là, je suis en train d'écrire un roman qui va se passer à Paris dans les années 30, mais je n'en dirai pas davantage. Mais dans la même veine que Illustrafie des Abysses que j'ai présenté ici à Melbourne, en novembre, je vais faire une résidence en Amazonie péruvienne. Donc voilà, là, ça va être 3 semaines d'immersion dans la jungle, dans un sanctuaire qui s'occupe des bébés primates orphelins. Et dans ce sanctuaire, il les soigne et il leur réapprend ou leur apprend même à revivre dans la jungle. Et donc, ce qui me passionne, c'est d'aller là-bas en immersion, d'autant que les scientifiques travaillent avec des chamans qui sont sur l'autre rive du fleuve. Donc voilà, il y a l'écosystème, il y a la jungle, il y a le fleuve, l'Amazonie, qui est quand même fascinant. Et il y a aussi cette rencontre entre science moderne et approche chamanique. Et je ne sais pas encore ce que j'en ferai.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si on a bien compris l'essence de votre travail, si on a bien écouté cette interview, vous partez en immersion totale en Amazonie. Vous savez que vous voulez travailler sur ce sujet. Vous savez que vous allez probablement publier quelque chose à l'issue de ça. Mais vous ne savez pas encore quoi.
Non, je ne sais pas quoi. Et peut-être un livre pour enfants aussi, parce qu'il y a énormément de mythes dans cette région-là, des mythes qui sont en rapport avec la création, la nature, un roman, je ne sais pas encore.
Bah, on est très pressés de voir, on est pressés d'avoir la surprise. Merci Wilfried Ansondé.
Merci Marianne.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
J'ai peur si tu restes, j'ai peur de tes gestes qui disent qu'on avance ensemble.
C'était Claude avec sa chanson Addition qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mai.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.